La deuxième heure de l'after avec Daniel Riolo, avec Pierre Ducrot. C'est le moment, comme tous les lundis, de revenir sur votre week-end européen avec les drôles de dames. Simone Rovera pour l'Italie. Ciao, buonasera.
Bonsoir.
Avec David Lorto en Allemagne. Allô, Freunde.
Allô, Freunde. Salut à tous.
Fred Hermel en Espagne. Hola, Chico.
Il est prêt pour une nouvelle série de fessées cette semaine, l'ami Simone. Hola, Chicos.
Vas-y, l'attaque.
Non, parce que c'était le, bah oui, bah c'était le jingle avant, ça parlait de fessées, automatiquement, je pense à Simone.
Ah oui, avec Pascal Duprat, effectivement.
C'est bien. Ça commence bien, l'émission, non?
Et Philippe Auclair pour l'Angleterre. Salut, Philippe.
Good evening and welcome.
Matière de fessées, Fred, s'y connaît.
Ça dépend du contexte,
Martinet,
en fait.
C'est-à-dire, ça dépend du contexte.
Bah, à l'école, c'était pas terrible. Après, quand tu grandis, c'est pas sympa.
Très bien. Si tu veux, oui.
Mais c'est pour suivre la métaphore de Daniel, voyons.
Comme disait OSS 117 dans le deuxième épisode.
Oui. Un doigt dans les fesses.
Un doigt dans les fesses, sorti du contexte, ça peut être mal interprété.
Voilà. À Rio, magnifique.
Rio ne répond plus, magnifique.
Ah, sublime.
Les avis tranchés de l'after. Donc, je vous rappelle que David Lorto va nous dire qui est le joueur le plus important du Bayern, et ce n'est pas Lewandowski, Müller.
C'est Martinez,
justement. Voilà. Ah bah, je voulais garder le suspense.
Ah,
très
pardon.
Bien, David, merci. Simone Rovera va nous dire que la saison de la Roma n'est pas à jeter. Loin de là, même s'il y a l'élimination qui se dessine en Ligue des Champions. Fred Hermel va nous dire qui est le meilleur gardien du monde.
On dit pas de nom.
Non, voilà. Et Philippe Auclair va faire son avis tranché tout de suite. Jingle Auclair.
Scandaleux. Mais je dis bien scandaleux. J'en ai plein le cul de ce mec. Va te faire voir. Va voir ailleurs si j'y suis.
Alors toi, Philippe.
La seule fois où Philippe Auclair s'est énervé, ça fait jingle, c'est horrible.
Bah, exactement.
C'est sûr qu'avec toi, c'est plus facile de faire des jingles.
Alors.
Donc, Philippe, toi, tu as vu Manchester United, qu'on critique, qu'on descend tous les lundis, s'imposer face aux futurs champions, la meilleure équipe peut-être de Première Ligue de tous les temps. Et pourtant, tu nous dis que tu n'as rien appris.
Moi, ce que je dis, c'est que j'ai vu un match qui était absolument somptueux, un des plus grands matchs de l'histoire de la Première Ligue, sans moindre doute, mais qui ne nous a rien montré qu'on ne sachait déjà, qui a confirmé des choses. Et si je rentre dans les détails, première chose, la fragilité mentale de Manchester City, on la connaissait. On a vu comment il s'était effondré par deux fois contre Liverpool à Anfield après un blitz de l'équipe de Jürgen Klopp. Donc qu'il subisse après un extraordinaire retournement de situation à la mi-temps la pression de Manchester United, ça n'est pas une surprise. Que Guardiola ne soit pas vraiment un manager réactif, mais plus un manager qui invente, un faiseur de projet, c'est pas une nouvelle non plus. C'est pas un manager qui a des plans B, c'est pas un manager qui pense comme ça. Il a un plan A qu'il veut pousser jusqu'au bout. Et là, on a vu peut-être que jusqu'au bout.
Ça veut dire quoi quand tu dis pas de plan B? Il ajuste parfois son équipe avec
des
changements qui sont. Je me souviens il y a deux ans du Bayern Juve où il gagne le match avec ses changements. Hein.
Ouais, mais il veut souvent s'imposer avec. Je pense que c'est ce que Philippe veut dire. Il veut pousser son plan à l'excellence pour s'imposer avec son plan.
Mais d'ailleurs, le plan qu'il a poursuivi jusqu'au but et qui aurait pu, mais on peut rentrer dans les détails dans quelques instants, parce que bien évidemment, ce match, c'était un magnifique chaos, au sens C-H-A-O-S, et dont on parlerait très différemment s'il n'y avait pas une décision arbitrale complètement incompréhensible de M. Atkinson, qui était carton rouge plus penalty en faveur, carton rouge pour Manchester United, et penalty en faveur de Manchester City, et également un poteau de Raheem Sterling en toute fin de match. Mais bref, ça c'est autre chose. Mais je dis bien, donc Guardiola pas réactif à ce niveau-là, et par contre Mourinho, lui, il l'est, et on sait que c'est un manager réactif, complètement réactif. Et dans le cas, et je voudrais pas qu'on passe trop de temps là-dessus, parce que ça fait 24 heures maintenant, ou 48 heures, que j'entends que mon fil Twitter est plein de ce genre de commentaires. On a également vu que Pogba pouvait être à la fois catastrophique et brillant dans le même match. On a eu un résumé de sa carrière en 90 minutes, en espérant que les 45 minutes de la seconde période seront celles que l'on verra à l'avenir, mais on peut en avoir aucune assurance. Mais franchement, je ne pense pas qu'on ait appris grand-chose sur la qualité de Manchester City, parce qu'aujourd'hui, quand je vois certaines gazettes, c'est tout juste si jamais c'est pas des nuls. Je vois dans le Times un titre qui est bien trouvé, End of an Aura. Donc la fin d'une aura, c'est un jeu de mots avec End of an Aura.
Avec Guardiola, il y a jamais de demi-mesure, il y a jamais de nuance.
Il y a de la démesure. Il y en a eu dans les compliments qu'on a adressés, mais je pense que ces compliments étaient largement mérités. Il y en a aujourd'hui dans l'autre sens, mais qui se comprennent également dans la mesure où demain il y a un match très important contre Liverpool, très compliqué à négocier. Si jamais par hasard ça se passait mal, le prochain match c'est contre Tottenham à Wembley. Et là ça commence à faire beaucoup de problèmes. Mais est-ce qu'on a appris vraiment des choses qu'on ne savait pas? Je ne pense pas.
Moi j'ai appris un truc. Oui, je pensais pas qu'il pouvait être aussi mauvais défensivement.
City. Bah, c'est un effondrement psychologique.
Ah, mais
c'est pas un effondrement tactique, c'est un effondrement psychologique.
Le dernier but, Smalling, il est tout seul entre les deux défenseurs centraux. Mmh. Ben, il aurait eu le temps de contrôler de la poitrine, de poser son ballon.
La tête de Pogba est un peu pareil. Hein,
ah ouais, aussi, ça m'a paru. Je me suis dit là, ce City-là, il peut pas gagner la Ligue des Champions. C'est pas possible avec une défense pareille.
Si, il peut la gagner. Il peut la gagner dans d'autres circonstances, d'autres contextes. Parce qu'encore une fois, c'est une chose sur laquelle j'insiste tout le temps. On parle des matchs en fonction de faits de jeu. Fin de la première période, je suis à côté de Damien Comolli. On est ensemble et on se dit, on vient de voir une exhibition magnifique, une exhibition de football magnifique.
Je suis d'accord.
Les 15 minutes qui suivent le but de Gundogan, en particulier le but qu'absolument, alors lui c'est une merveille. Ouais. Mais les 15 minutes qui suivent, c'est parmi les plus belles minutes que j'ai vues cette saison. Si Raheem Sterling ne mange pas la feuille 3 ou 4 fois, Gundogan a une autre occasion, ça peut faire 4 ou 5-0 à la mi-temps. Et je dirais que c'est en fait presque le fait que ces occasions soient manquées qui fait que Manchester United se dit, bah les gars, peut-être que c'est notre chance, notre jour de chance.
Mais voilà.
On aurait dû se faire laminer.
En fait, c'est le scénario du match, le côté fou du match ne donne rien de bon dans l'analyse de ce qu'a été ce match-là finalement. Que Manchester ait fait ça très bien, ils sont à féliciter, et que sur une saison, sur toute la saison, ils vont pouvoir garder ce match comme leur match phare. Ça doit faire oublier toutes les bouillies qu'ils nous ont proposées par ailleurs, l'élimination contre Séville, et ça va nous faire oublier le fait que City va terminer champion avec pas mal de points d'avance, même s'ils vont connaître 2-3 accros. Ils sont pas champions d'Europe. Bon bah ok, alors qu'ils étaient favoris. Bon bah ok, très bien.
Ça reste à voir, Daniel.
Non mais imaginons que Philippe.
Oui.
Bon bah ok, moi ce qui me semblera plus utile au moment du bilan, c'est effectivement de demander à Guardiola pourquoi effectivement au milieu de l'hiver sur certains matchs il a pas fait plus tourner, pour que ces mecs aient plus de fraîcheur. Ça oui, mais ça ne dit rien. Et ça ne remet rien en cause de ce qu'il fait, de la méthode, du spectacle qui a été proposé, des matchs fabuleux qu'on a vus. Tous les bons matchs en Angleterre cette année ont quand même, si tu dois faire un top 10, tu sais, comme tu fais le top des audiences sur une année à la télé.
Oh, il y en a 7 ou 8 de Manchester City.
Voilà, sur les 10 plus gros matchs, il va y avoir Manchester City 7 ou 8 fois. Je dis, bon, voilà, très bien. Bravo Manchester United d'avoir fait ça. Comme tu dis, Pogba est capable d'avoir fait une bonne mi-temps, et à côté de ça 10 matchs ratés, et c'est ça qu'on va retenir. Moi ces analyses démesurées, je les trouve dingues. C'est comme pour la défense, Fred.
On n'a pas découvert
que défensivement Manchester City c'était pas des cracks. Il y a eu des blessés.
Non mais franchement, il y a deux des trois buts, c'est hallucinant.
Mais je suis d'accord.
C'est
un écroulement psychologique. C'est pas parce qu'ils sont mauvais, tu parles de défenseurs. On parle par exemple de Nicolas.
À la fin du match, si tu demandes à Pogba, tu signes pour continuer avec quel entraîneur des deux que t'as là? Bah, il va signer avec Guardiola pour continuer à jouer pour sa carrière.
Dans le contexte actuel, c'est particulièrement abusant de dire ça.
Donc, il faut pas, tu vois, profitons plutôt de l'extraordinaire match qu'on a vu, où franchement,
on revient à la beauté du jeu.
J'en revenais pas. Exactement.
C'était fabuleux. La seule chose qui dénotait, malheureusement, c'est le fait que si ce match s'était joué à Old Trafford, l'ambiance aurait été extraordinaire. Mais là, par contre, ce public de Manchester City, je n'y comprends absolument rien. Je n'ai aucune explication. Parce que c'est un public qui a été habitué à beaucoup de déceptions et désillusions dans le passé. Ça fait très peu de temps qu'il goûte au succès. Et malgré tout, ils sont déjà gavés de succès. Non, c'était plein, mais demain soir. On peut l'espérer, on peut le penser, mais encore une fois,
il n'y aura pas d'ambiance, quoi. C'est ça que te dis.
Je pense que l'ambiance, ça sera mise par les supporters de Liverpool.
Mon inculture, est-ce qu'il y a eu une grosse ambiance parfois à City, même dans le passé? Ou ça n'a jamais été des supporters?
Si, moi, du temps où j'y allais, quand c'était à Main Road, il y avait une grosse ambiance. Ça a changé beaucoup. Il y a eu quelques matchs, peut-être au début, si tu veux, de l'ère Mancini. Quand les choses commencent à se mettre en place, il y a eu des moments où franchement le stade vibrait et c'était formidable parce que tu sentais une
c'est cher parce que
non,
ça peut expliquer.
Non, c'est pas cher du tout.
C'est l'un des clubs qui coûte le moins cher.
Non. Les abonnements à Manchester City, tu fais le compte, c'est le billet c'est 15 et 20 euros, donc c'est vraiment pas un problème de prix, c'est pas cher du tout pour aller voir Manchester.
Juste un mot quand même. Dimanche, le lendemain de ce match-là, il y avait Transversal, l'émission sur
CFR. Matin.
Et donc, et dans le programme qui s'appelle Soccer Box, où Gary Neville reçoit un ancien joueur pour débriefer un match, il recevait donc là Ryan Giggs pour débriefer un City United 2-0 gagné par United 3-2. Donc là on se dit putain les mecs qu'est-ce qu'ils sont forts quand même d'avoir fait ça et tout. Mais nous avions également un reportage. Quel est le problème Paul Pogba?
Gary Neville, ne l'a pas épargné parce que encore une fois, et là c'est un problème de culture.
Il met deux buts.
Oui, il met deux buts. Mais il y a un problème, je me suis fait traiter de tous les noms pour avoir osé mentionner ça, mais il y a quand même un gros problème lorsque l'un de tes joueurs emblématiques se pointe sur la pelouse du club détesté dans un match du titre. Derby local et trouve le moyen d'avoir les tifs teints de la couleur de ce club. Là, moi, j'avoue qu'il y a un moment où je ne comprends.
Ah oui, c'est vrai.
Je ne comprends pas.
Il les a comme ça depuis l'équipe de France.
Oui, c'est ça.
Ça a beaucoup choqué.
T'as raison, oui.
Ça a beaucoup choqué.
En Angleterre, ce genre de truc, quand tu te fais insulter par des mecs ici qui ont zéro culture foot.
Mais ils se rendent pas compte que quand tu vas à Manchester,
c'est la nouvelle génération de gens qui ici sont fans d'un joueur, ne protègent qu'un joueur et ont zéro culture sur les clubs, l'histoire des clubs, ce que sont même les championnats, que ce soit en Espagne, en Italie, partout. On a un nouveau. D'ailleurs, il faudrait un soir qu'on va faire une émission là-dessus parce que j'ai une discussion très intéressante.
Parce que c'est des footix améliorés en fait. C'est des nouveaux footix.
On a une culture du foot en France qui est en évolution et qui est très particulière par rapport aux autres pays. Sur les couleurs d'un club, sur les logos, sur pourquoi le maillot du PSG par exemple change tout le temps. Contrairement au maillot de la Juve qui change jamais. Voilà, ou à celui du Real qui au club, le Real, à part pour les maillots 2 et 3, jamais on acceptera que le maillot domicile soit bariolé, soit
bizarre. C'est pas possible.
Pourquoi à la Juve et le directeur marketing, si le mec arrive et fait des bandes différentes, il dira au risque de perdre de l'argent.
Souviens-toi Daniel,
les maillots, on vous a déjà entendu en parler, c'est pas nouveau.
Mais moi j'ai des nouveautés là-dessus.
Là c'est intéressant, oui.
Sur pourquoi le jeune aujourd'hui, quand tu demandes aux 15-18 ans aujourd'hui quelles sont les valeurs qu'ils mettent en avant sur le foot, il y a des enquêtes donc d'instituts marketing qui travaillent pour des marques qui disent que c'est le joueur et que tout ce qui est logo, club, identité, beaucoup de jeunes n'ont rien à cirer complet.
Il faut savoir, quand je disais
qu'on est le seul pays où on a autant de gens qui supportent des clubs à l'étranger, c'est une réalité, mais ça a un sens.
Philippe,
tu veux rajouter un mot et on revient à l'actu après.
Oui, juste un mot pour dire que c'est quelque chose. Je pense que Pogba pêche plutôt par ignorance qu'autre chose dans ce cas-là.
Je pense
que son club aurait dû.
Les conseillers qui est autour.
C'est le club qui aurait dû lui dire, mais cela dit, je pense pas que les choses qu'il se rendent compte.
C'est pas au club justement de le dire, ça doit être du bon sens pour le joueur.
Mais pour moi, c'est un bon sens évident, surtout quand c'est pas ta première année. Si c'était ton premier match, ta première année, tu peux comprendre qu'il y a des choses qui passent à côté. Quand tu vas dans des bars de Manchester City à Manchester, il y a même pas de bouteille de ketchup sur la table parce que c'est couleur rouge. Autant vous dire que les gars, c'est quelque chose qui est quand même très important pour eux.
On revient à l'actu.
Ce qui est plus facile dans l'autre sens où t'as pas de ketchup bleu, quoi.
Effectivement, Pierre, merci.
Ouais, mais on boit pas de Curaçao.
Non plus.
Oui, absolument.
C'est la bleue. La personne que vous entendez,
tu ne manges pas de bleu. Certaines boissons énergétiques sont bleues.
Alors, Philippe, un mot du derby de la Mersey, vraiment, tu veux? Parce que bon. Hein.
En fait, il n'y a rien à en dire, sinon que pour Liverpool, c'était la préparation parfaite.
Bon, parfait. Que se passe-t-il avec Hugo Lloris?
Écoute, je trouve qu'on est très très sévère avec lui. Il y a des joueurs auxquels on ne passe absolument rien. Ce qu'il y a, c'est qu'il est moins constant à un très très haut niveau qu'il l'a été en début de saison. Fred se souviendra d'un match absolument extraordinaire au Bernabéu. Il a eu quelques
moment un petit peu plus difficile avec Tottenham. Cela dit, n'exagérons rien, le but qui se prend
contre Stoke, oui, il a pas de chance quand même.
Il a pas vraiment beaucoup de chance. Il a déjà beaucoup de mérite à être sur le ballon avant avant Diouf. Donc n'en rajoutons pas, n'en faisons pas des tonnes.
Il arrive, il fait une sortie au pied, il balance le ballon en tapant très fort. Manque de chance, c'est contré et ça revient juste dans les pieds. Alors que
je suis d'accord avec Philippe sur l'ensemble de la saison de Lloris qui a rapporté plus de points qu'il n'en a fait perdre. Là sur le coup et pour avoir commenté le match.
Ouais.
Le souci majeur que je vois dans cette sortie, c'est qu'il lit effectivement, comme Philippe le dit, superbement bien le jeu. Il voit que Diouf est à un mètre de lui face à lui.
Ouais,
il doit mettre l'intérieur du pied sur le côté plutôt que de dégager de face. Parce qu'après, il s'expose à ça. C'est un mauvais choix quand même.
Le geste technique n'est pas judicieux. T'as raison. Ouais. Mais il a un petit manque de réussite parce que.
Oui, ça peut partir
n'importe où. Que le ballon reste dans les pieds, tu vois, en tapant aussi fort. Bon.
Ah, puis il tape dans le nez avant d'aller dans les pieds.
Ouais, c'est ça, c'est quand même. Mais bon. Mais c'est pas la seule boulette quand même.
C'est admirable ce qu'il fait.
Non, mais on sent par contre Philippe un petit peu avec un peu moins de confiance quand même, un peu moins de confiance.
C'est pas catastrophique, c'est pas du tout ça, c'est pas des grosses boulettes, c'est juste un petit coup de moins bien, mais il y a pas grand chose à signaler. Et sinon, ben on a passé beaucoup de temps, bien évidemment, c'est normal sur ce derby de Manchester. La seule chose que je signerais peut-être dans l'actu, c'est un club dont on n'a pas beaucoup parlé, mais qui risque de se retrouver en Ligue Europa l'année prochaine. Avec un budget qui est complètement mais ridicule, et c'est Burnley.
Ridicule en Angleterre pour Philippe.
Mais attends, on se comprend. À savoir que l'effectif de Burnley à être réuni a coûté 2 Mangala. C'est comme ça que moi, c'est mon unité de mesure.
Tu comptes en Mangala.
Oui, je compte en Mangala.
Il a Burnley sur 7e avec 49 points.
Que devient Mangala?
À 5 d'Arsenal.
Bah, il a été blessé qui a mis fin à sa saison.
Au niveau fric.
L'effectif au total a coûté.
Non, mais le budget annuel, parce que pour comparer par rapport à.
Les recettes annuelles, écoute, on doit être aux alentours de 120, 130 millions, quelque chose comme ça.
Ouais.
Donc c'est costaud, mais par rapport aux autres budgets de la première ligue, ouais. C'est rien du tout. Et surtout, en plus de ça, c'est un club qui a perdu beaucoup de ses meilleurs joueurs. C'est un club qui a perdu son meneur de jeu Steven Defour sur une grosse blessure, qui a perdu son gardien international Tom Heaton. Mais bref, ce qu'ils font, c'est absolument admirable. Ils sont 7e et ils se qualifient.
Ah oui, pour Burnley, peut-être en Europa League la saison prochaine. Dans une seconde, Fred Hermel va vous dire donc qui est le meilleur gardien du monde.
Ça va coûter cher. Ah bah carrément. Oui.
On fait pas les choses à moitié chez
Fred Hermel. Donc.
Ce n'est pas Derrea.
C'est pas Derrea.
Ce n'est pas Hugo Lloris.
C'est pas Buffon.
C'est pas Buffon.
C'est pas Neuer.
Non. Daniel Riolo, Pierre Ducrot, comme tous les lundis dans l'after et comme tous les lundis après 23h, les drôles de dames sont avec nous. Fred Hermel, Philippe Auclair, Simone Rovera avec son avis tranché sur la Roma qui se prépare et David Lorto pour l'Allemagne, le Bayern évidemment. Pendant cette semaine, on sera concentré sur les quarts de finale retour de Ligue des Champions, même s'il n'y a pas un suspense de dingue, on sait jamais quand même. Tous les matchs seront sur RMC et les débriefs dans l'after. On y va, messieurs, on continue avec l'avis tranché de Simone Rovera sur l'Italie.
C'est parti.
Et Alexis Sanchez.
Chapeau 4.
C'est pas possible. Il est à Arsenal. Il est pas au Real Madrid, monsieur.
Et donc, tu veux nous parler de la saison de la Roma et tempérer ce qui s'est passé en Ligue des Champions.
Bah oui, et tempérer ce qui se passe en Ligue des Champions aussi, un peu raconter qu'est-ce qui se passe au quotidien dans une ville comme celle de la Roma, où je l'ai dit plusieurs fois, mais peut-être seulement qui connaît vraiment la ville, qui a vécu à Roma ou qui suivent le football italien, sait que c'est comme une machine à laver, ça tourne en 1600 tours, oui, voilà, pour... Et c'est compliqué, ouais, c'est-à-dire il y a plein.
Machine,
écoute ça, une machine solide quand même. D'accord. Parce que là, c'est dur à survivre presque à ça. Il y a plein de radios qui ont des avis qui sont très tranchants. On dirait qu'elles nous regardent chaque semaine.
Ah, l'avis tranchant, j'aime bien ça. Oui. C'est-à-dire qu'ils font ça pendant 24 heures, quoi. Ce qu'on fait
pendant 24 heures. Et depuis quelques jours, depuis surtout la défaite face au Barça, on dirait que Roma est tout à jeter. Que c'est un cauchemar, c'est une catastrophe, et ça c'est parce que surtout tout le monde parle, tout le monde a des avis et tout le monde doit dire quelque chose de mal souvent. Ce que je veux dire, c'est que la Roma se trouve dans une situation, oui, catastrophique en Ligue des Champions face à un grand d'Europe après un match surtout malchanceux et aussi mérité par Barcelone qui est supérieur, mais malchanceux de la Roma, et que si on regarde bien la saison d'une équipe qui a perdu cet été quelque chose comme 3 joueurs, je dirais déterminants, Une s'appelle Mohamed Salah et on a vu qu'est-ce qu'elle est en train de faire à Liverpool. L'autre s'appelle Francesco Totti qui n'est pas peut-être les joueurs décisifs dans les jeux, mais c'était quand même...
Il représente un petit truc.
Il représentait beaucoup pour plusieurs joueurs. Il a perdu Rudiger, défenseur qui peut-être Chelsea ne s'est pas exprimé au top niveau, mais a été un pilier de la Roma et il est important aussi dans la sélection allemande. Il y a eu une refondation, seulement que la refondation n'a pas vraiment marché. Monchi qui est arrivé n'est pas un idiot. Il a raté un peu son mercato. Il a les joueurs qui arrivaient, qui a plus de matchs. C'est Kolarov qui c'était pas un des profils, on peut dire qu'on peut s'attendre de voir débarquer à Roma par Monchi, mais plutôt on pensait à des jeunes, des joueurs qui allaient s'imposer avec les temps. Par contre, les jeunes, il y a presque personne qui s'imposait.
Tu souhaites Daniel. Soyons clairs, ça devient dur pour Daniel. Et qui nous a annoncé à 22h qu'il était un peu malade. Là, on est dans le jeu. Mais on s'accroche, on est tous ensemble, on est avec toi, Daniel. Sache-le. Alors, Simonet.
On compatit.
Donc, les joueurs, quelqu'un un peu s'impose, comme Under qui a été malheureusement absent au Camp Nou. Il y a d'autres qui petit à petit prennent leur place, comme Pellegrini. Mais la révolution qu'on devait attendre, il n'y a pas vraiment eu. Si on regarde les 12 joueurs plus utilisés, les seuls qui est nouveau, c'est Kolarov pour dire. Donc, c'est une révolution à moitié. Les joueurs plus importants sont partis. Ceux qui sont toujours là doivent être toujours titulaires et toujours décisifs. Et on parle d'une équipe qui quand même est arrivée en huitième de finale, une quart de finale de la Ligue des Champions, qui joue la troisième place au championnat. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la Roma est à 21 points derrière la Juve. Mais la chose normale...
C'est les 10 ans sans titre qui font mal à la Roma.
Mais la Roma, après ces 10 ans sans titre, il y avait d'autres 10 ans où il n'avait pas gagné grand-chose. La Roma, c'est combien de titres? Je pense 3 en Serie A. C'est pas une équipe qui a toujours gagné. Ce qui fait mal à la Roma, c'est de voir qu'il y a toujours les autres qui gagnent quand c'est pas la Juve. C'est Milan et c'est l'Inter. Et c'est la même chose qui va faire du mal à Naples. Parce que, j'ouvre en parenthèse, je suis convaincu que la Juve va gagner 16 titres et que les prochains clubs qui vont piquer un titre à la Juve, c'est ni Roma, ni Naples, mais sera les retours de Milan, les retours de l'Inter. Ouais. C'est ça qui fait mal. Ça fait mal de voir que Naples est, oui, à 4 points derrière la Juve, avec une saison incroyable, au-delà de chaque limite presque humaine de Naples, et que eux, qui la saison dernière ont terminé devant la Roma, devant Naples, aujourd'hui sont loin derrière.
Toi, ce que tu veux nous dire ce soir, c'est que malgré, il faut quand même tenir compte de la refonte du club et que ça reste une bonne saison.
Ça reste une bonne saison. Que dit Francesco, il est arrivé pour la première fois.
Il faut pas qu'il rate la zone Ligue des Champions.
Il faudra. Bien sûr, il faut.
Non, mais il faut assurer. Il y a quoi, 31, il reste quoi, 7 matchs.
Ils ont une semaine importante.
La Lazio a autant de points. Ils ont un point de moins. Un point de moins.
Et il y a le derby là.
Il y a les derbies dimanche.
Il faut pas qu'ils se fassent marronner à finir 5e, tu vois.
Il faut pas.
Là, pour le coup, ça va couiner là.
S'ils sont en zone Ligue des Champions,
ils seront dans les clous de ce qu'ils ont fait ces dernières années, c'est-à-dire on ne gagne pas de titre, mais on est toujours plutôt bien placé. On a été deuxième, on a
fait des
trucs.
Après 10 ans, ils sont revenus en quart des finales de Ligue des Champions.
Bien sûr.
Et comme je t'ai dit,
il faut pas qu'ils finissent marron.
C'est une équipe surtout qui avec la Lazio devant, ça joue ça aussi.
Si la Lazio gagne les derbies, elle sort de la Ligue des Champions.
Alors là.
Et je dis même pas si la Lazio gagne la Coupe UEFA, parce que là.
Si la Lazio gagne l'Europa League, Francesco peut dégager, mais là aussi ça serait trop dur pour un entraîneur
qui arrive de Sassuolo, qui n'a pas l'expérience, parce que ce qu'a perdu la Roma, et je parlais des joueurs, il a perdu un entraîneur comme Spalletti, qui peut-être n'est pas aimé partout, mais j'ai regardé dans les 12 dernières saisons qu'il a terminées, une seule fois, il n'est pas rentré dans les top 4 ou n'a pas qualifié son équipe en Ligue des Champions. Entre la Russie, même à l'Udinese, il a fait arriver en Ligue des Champions.
Là, pour l'instant, il est 5, mais il n'y a qu'un point d'écart.
Voilà, donc, oui, mais il a perdu quelqu'un qui était très pratique du haut niveau, de gérer la pression, même s'il a un peu craqué avec la gestion Totti à la fin, et c'est inévitable de se séparer de Spalletti. Mais aujourd'hui, la saison de la Roma est beaucoup critiquée, surtout en interne, surtout dans la ville. Et moi, ce que je trouve que il y a vraiment ça là
c'est exagéré
parce qu'il y a trop d'amour
enfin en même temps exagéré pour Rome c'est tellement normal, mais c'est toujours été comme ça
c'est un amour qui est trop grand et qui donc parfois ça déborde. Je pense que demain, ça peut terminer même 0-5 pour le Barça. Rien va changer. La Roma, logiquement, de chercher de faire un miracle, mais il faudrait deux miracles.
Mais le match le plus important, c'est dimanche, manière. C'est pas.
Les matchs plus importants, c'est dimanche. Et le match le plus important, ça va dimanche, être à l'avant-dernière.
Ah oui. À quelle heure?
C'est 20h45. C'est, il y a la Juve qui arrive à l'avant-dernière. Il faut voir si c'est déjà gagné les titres ou non pour la Juve, parce que là aussi, ça peut être compliqué. Ouais. Donc, la saison de la Roma, c'est doit encore se terminer. Mais avant de dire que c'est raté, comme on dit souvent.
Il y a longtemps qu'il n'y a pas eu, aussi. Okay.
Moi, j'ai une question pour Daniel.
Ouais.
Plutôt que Dijon, Strasbourg ou Montpellier, je sais plus quoi.
Oui, je regarde le derby.
PSG, Monaco ou derby, Rome, Lazio, Rome, contre AS Roma. Dimanche.
Est-ce que tu veux là où il y a de l'enjeu?
Bah, il y a l'enjeu, PSG peut être champion. C'est notre, c'est quand même notre championnat, quoi. Mm. Mais le derby, quand même, il va être beau, ce derby.
Simone, dans l'actu, tu voulais nous parler de la Fiorentina?
Bah oui, rapidement, parce qu'ils sont en train de faire quelque chose de historique, déjà, parce que ça faisait, depuis l'année 60, ils avaient pas gagné 6 matchs d'affilée. 5 de ces matchs sont arrivés après les décès d'Astori. Il y a une chose qui m'a touché, c'est une phrase, plusieurs joueurs disent, pour nous, c'est comme s'il était toujours là. Mais au-delà de ça, il y a un ancien joueur de la Juve qui s'appelle Giancarlo Marocchi, qui était touché dans sa carrière par la mort d'un coéquipier qui s'appelait Andrea Fortunato, et qui expliquait comment pour eux, à un certain moment, ils se sont rendus compte que tous les petits trucs de vestiaire, tu gagnes plus, tu joues un peu plus, tu perds toute importance. Ouais. Et à partir de ce moment-là, pour eux, c'était comprendre qu'ils font les plus beaux métiers du monde et que parfois il y a trop de bruit autour de ces métiers et ils sont remis au sérieux. Et comment la Fiorentina a changé sur ces 5 matchs, la dernière victoire c'est à Roma face à la Roma 2-0, c'était quelque chose de très fort, parce que tu vois vraiment une équipe qui fait les choses simples et ça fonctionne. Et parfois tu te rends compte qu'il y a trop de bruit, trop de choses autour du football qui laissent déconcentrer les joueurs.
Tu vois une équipe.
Voilà.
Parce qu'on appelle vraiment une équipe.
Et pas ce monde des autres.
Alors Simone, pardon de faire ça en direct, mais il y a un oubli majeur dans ton programme italien. C'est qu'il n'y a pas un mot pour le doublé de Cheikh Diabaté.
Oh!
Et ça, quand même.
T'as raison, mais parce que j'ai tellement été excité pendant tous les matchs que j'ai fait 308 pendant les matchs. C'est Cheikh Diabaté qui est sorti sur un standing ovation de ce stade magnifique de Benevento, qu'il fallait dire. C'était la Juve. C'était la première fois que la Juve arrivait à Benevento. Mais ils sont déjà presque rétrogradés.
Ça a dû attirer la foule, hein. Première fois que la Juve, ils étaient allés il y a quelques années en Serie B, ils avaient joué à Crotone et dans certaines villes du
c'est
sud.
C'est ça, des 16 000 spectateurs, donc folie, c'est simple à remplir, mais c'est toujours plein à craquer pour l'équipe qui va descendre.
C'est où Benevento?
Pas
c'est
très loin de Naples.
C'est à côté de Naples.
C'est un peu au sud de Naples.
D'accord.
C'est une équipe qui rêve encore de sortir des gros exploits, et quand Cheikh Diabaté a marqué ses doublés. Et donc, les premiers pour égaliser, le deuxième aussi pour égaliser.
En plus,
et après,
un
la Juve gagne 4-2.
Moi, j'ai vu Sagna, il a réussi 2 centres.
Attends.
N'oublions pas que Sagna joue là-bas. Non, mais Sagna, il a réussi 2 centres.
C'est d'ailleurs la deuxième erreur de Simonet qu'il n'avait pas noté dans son programme.
Oui, bien sûr.
Sagna, quand même, souvent. Les centres réussis de Sagna, il faudra les mentionner.
Ouais, il faudrait faire une petite stat les lundis.
T'aimerais bien, Daniel, avoir un Sagna en forme là, en ce moment en équipe de France?
Non, c'est bon, merci.
C'est bon, il y a Debuchy qui arrive.
Non, c'est bon, on a donné Pierre.
Mais moi, je pense qu'il faudrait dans beaucoup de clubs de Ligue 1 un Diabaté, comme on a vu sur les 5 matchs qu'il a joué avec Benevento.
Diabaté. Non, mais quand on parle de Diabaté dans l'after, on est obligé.
Dis-moi, où est ton pied droit? Dis-moi, où est ton pied droit? Si au bout de ta jambe t'as un pied, dis-moi quelle forme.
On va prendre le refrain.
Au sacré pied droit, est-ce qu'il serait pas carré des fois? Non, parce qu'on comprend pas, mon gars, où la balle va. Hey, où t'es chez Diabaté?
Où t'es chez Diabaté? Où t'es chez Diabaté? Magnifique. Vu à Casar, bon salut. On dit parfois les tubes. Voilà. Magnifique.
Génial.
Voilà, Simone, pourquoi il fallait absolument parler de Cheikh Diabaté ce
bien
soir.
Sûr.
C'était obligatoire. On enchaîne avec l'Espagne. Messieurs, jingle Fred Hermel.
Elle est la meilleure Liga du monde, la Liga Espagnole.
Alors Fred, tu es sorti de Bernabéu après ce derby entre le Real et l'Atlético en te disant « je tiens le meilleur gardien du monde ».
Oui, un jour je serai un vieux con qui après 2 heures de Bordeaux racontera assez un petit peu quand on est vieux puis qu'on raconte toujours les mêmes histoires quoi. Et je pense que je raconterai aux petits jeunes débutants là qui écouteront le vieux journaliste raconter ces histoires que j'ai vu jouer un type qui s'appelle Yann Oblak.
Pardon de te couper Fred en pleine avis tranchée, mais je pense que tu auras plein d'autres histoires à raconter avant.
Oui.
Quand même.
Non, mais il y aura cette histoire-là, parce qu'il y a un an, j'ai vu le plus bel arrêt de ma vie quand même. Le triple arrêt à bout portant de Yann Oblak contre le Bayern Leverkusen.
Ah oui.
David s'en souviendra, mais j'avais jamais vu ça.
Certes. Hein.
C'était extraordinaire. Et on s'est dit, tiens, à ce moment-là, on s'était rendu compte qu'Oblak était capable de faire des exploits. Sauf que depuis, ben, c'est devenu normal pour lui faire des exploits. Je l'ai vu jeudi dernier au Wanda Metropolitano faire encore un arrêt extraordinaire contre le Sporting du Portugal. Je l'ai vu ce week-end à Bernabeu, au cours d'un très bon derby, malgré un contexte un peu particulier, c'est-à-dire deux équipes qui savaient très bien, c'était le Real et l'Atlético, qui ne gagneraient pas la Liga, et qui en plus sont très bien partis en Ligue des Champions, qui ont des matchs importants de Ligue des Champions et de Ligue Europa pour les Colchoneros cette semaine. Mais malgré ça, on a vu un très beau derby, et on a vu un Oblak qui a encore fait des arrêts, mais de folie, quoi. Et sincèrement, je l'affirme, et je donne un carambar à celui qui me dit, qui est aujourd'hui, hein, maintenant, le meilleur gardien du monde, pour moi, il n'y a pas meilleur que Yann Oblak. Et je me suis laissé entendre dire, et c'est une rumeur qui est de plus en plus pressante du côté du Wanda Metropolitano, c'est que le PSG est là, le PSG discute avec Yann Oblak, que la clause de libératoire du Slovène est de 100 millions.
100 millions pour un gardien, ça
ouais,
c'est déjà vu
ouais,
ça.
Mais qu'ils essayent, et qu'ils essayent de faire baisser bien sûr la clause, de pousser un petit peu Yann Oblak à rentrer en rébellion, etc. Sauf que du côté de l'Atlético, où ils risquent d'avoir des thunes en fin de saison, et ben du côté de l'Atlético, ils sont prêts à faire une très belle offre de prolongation et d'augmentation de salaire aux Slovènes pour qu'ils restent. Et je comprends, d'un côté, je comprends tout à fait que le PSG puisse passer cette salaire pour un tel gardien, et je comprends que l'Atlético puisse faire une grosse rallonge pour le garder, parce qu'il est fabuleux. Il est bon dans tous les secteurs du jeu, c'est-à-dire il fait des sorties super, sur sa ligne il est incroyable. Je pense que vous avez tous vu la claquette qu'il fait sur à la 92e minute sur un coup franc sublime de Ramos. Voilà, et donc je l'affirme et je pense que personne ne peut me contredire, parce que Neuer qui est intouchable, Neuer est blessé. Aujourd'hui, là, Yann Oblak, seulement 25 ans, est le meilleur gardien du monde.
Bah alors là, messieurs, est-ce que dans les autres championnats vous avez quelque chose à rétorquer à Fred?
Oh, bah, moi j'aime beaucoup De Gea, donc.
Oui, c'est ce que j'allais dire.
Il fait des bévues que ne fait pas.
Le brésilien de la Roma est bon et lui aussi ouais, fait partie des mecs que le PSG regarde. Mais oui, Oblak est un super gardien, bien sûr, mm-hmm. bien sûr.
Je crois qu'il a un niveau parce qu'il est constant dans les exploits aussi.
Lafont.
Il est constant dans les exploits.
Tout le monde l'a envoyé en équipe de France, Allemand Lafont, à un moment.
Mais non.
Mais bien sûr que si, Jean-Louis, tu étais dans ce groupe.
Mais qu'est-ce que tu
étais dans ce groupe?
Ah, mais.
Mais tu serais pas romain, pour exagérer comme ça.
C'est les groupes en France des enflammades rapides.
Mais t'es pas.
Bonjour, Louis, le président.
Oh là là, tu vas savoir comme ce groupe est actif.
Oui, mais moi, je peux te dire que mon enflammade sur Oblak, elle est pas exagérée.
Non, toi, Fred, elle est pas exagérée du tout. Mais t'es sicilien, t'es pas romain. Pourquoi tu exagères comme ça?
Mais pas du tout, je dis des choses totalement justes. Il n'y avait pas eu d'enflammade sur Allemand Lafont, peut-être.
Mais oui, mais moi,
on
j'étais
le voyait
pas
en équipe de France.
Non, en équipe de France, je suis pas sûr.
Pardon?
Que c'était un gardien prometteur,
monsieur,
etc.
Plaît-il? C'est une blague ou quoi?
Non, il était prometteur, il a 19 ans et tout, mais de là à l'envoyer en équipe de France, je pense que tu exagères un peu.
Mais ça dépend comment on comprend le rôle de gardien également, parce que moi, je pense qu'Oblak est sans doute sur sa ligne. Au moins l'égal de De Gea. Savoir s'il est dans
De Gea, je trouve très fort.
Mais De Gea, il a des bévues, on l'a vu avec l'Espagne l'autre jour encore.
Mais il arrivera à tout garder, pas de se manquer. Mais c'est un poste tellement compliqué à juger et c'est tellement compliqué parce que ça dépend également
de ce que t'as devant toi.
D'ailleurs, quelle défense tu opères, ce que te demande ton entraîneur. Par exemple, dans un système de jeu à la Guardiola, Ederson est meilleur qu'Oblak. Mm-hmm. Par contre, dans un système de jeu à la Simeone, Oblak est très largement le meilleur. Je pense qu'on
garde en qualité naturelle. Il est bien évidemment protégé. Sauf qu'il est capable de faire des choses, de répéter des choses qui semblent incroyables. Voilà, on dit, ouah, ce qu'il a fait là, et puis le week-end d'après, il le fait encore. C'est-à-dire qu'un gardien, pour moi, c'est quelqu'un qui doit ramener des points à une équipe. Et De Gea et Oblak ramènent des points à des équipes. Il ramène des points, il ramène des victoires à son équipe.
De Gea aussi, je te rassure, et je me fais pas trop de soucis pour ton équipe d'Espagne avec lui.
Pas vraiment. Ouais, moi, je suis pas, et beaucoup de gens en Espagne sont pas très très fans de De Gea.
D'accord.
Il y a un petit doute autour de lui.
Ouais, c'est costaud quand même.
Ouais, il est fort, mais il est pas d'une assurance, en tout cas, juste du côté sud des Pyrénées.
Parce qu'il joue pas en Espagne, tu crois, Simone?
Ouais.
Alors, Fred, le derby madrilène, qu'est-ce qu'on retient sinon, à part le 1 partout, le but de
Gea? Non, c'était un beau match. beau match. C'était vraiment un match très agréable. Je me suis régalé. En plus, il fait un temps pourri en Espagne, sauf hier. Le match était à 16h15. Il y avait une ambiance très sympathique. Alors, c'est évident que, bon, Zidane, il fait sortir Ronaldo à la 64e. C'est, il avait pacté parce qu'il y a le match contre la Juve.
Oui, Batman et Robin ont pas joué en même temps.
Ben oui, oui, oui.
Il y a eu un coup Batman là pour Robin.
Voilà, parce que Benzema était sur le banc, parce que Modric était sur le banc, parce que Casemiro était sur le banc, parce que
Robin. Ouais, mais c'est Robin, il est français.
Batman et Robin, vous dites.
Bah, évidemment.
Sinon, tu dirais Batman et Robin.
C'est fou, ça.
Oui, Robin. J'ai toujours dit Batman et Robin.
Oh, bah, t'as été
ringard. C'est comme Zidane, vous connaissez Zidane, je te dis. Zidane, l'ami de Simonet.
Oui, c'est comme Zidane. Zidane avait laissé.
Il joue dans la même équipe.
Zidane et Robin.
Geoffrey, toi, tu disais Robin aussi, toi.
Avait laissé des joueurs importants sur le banc et du côté de la
Il est pas français, bah, Robin.
Non, mais c'est bon.
Robin, Robin des Bois. Robin non. Wood ou Robin des Bois.
Voilà. Vas-y, Fred.
Ah oui, c'est vrai.
Et que, okay. Et que Simeone, lui-même, par exemple, a fait sortir Diego Costa avant la fin, tout simplement parce que, certes, le Real Madrid a gagné 3-0 il y a une semaine, tout le monde le sait, à Turin, mais Zidane va mettre la meilleure équipe possible mercredi. Il ouais. veut surtout pas, et d'ailleurs, il l'a clairement dit en conférence de presse hier, nous jouons notre vie sur ce match et ça m'énerve qu'on essaie, il a dit comme ça, hein, ça m'énerve qu'on essaie de nous mettre dans la tête qu'on est déjà en demi-finale, je connais le foot et il veut surtout éviter le ne serait-ce qu'une petite peur, par exemple la Juve qui mène quoi, voilà. Okay. Et donc Zidane a vraiment géré ce match en pensant à la Ligue des Champions comme Simeone a géré ce match en pensant à la Ligue Europa.
Fred, Sébastien est avec nous au 32-16 dans l'after, il a une question directe pour toi. Salut Sébastien.
Salut tout le monde. Salut l'équipe.
Qu'est-ce que tu veux demander à Fred? Il est avec toi.
J'aurais une petite question pour Fredo. Savoir ton ressenti si Zidane pourrait être comme un Sir Ferguson au Real Madrid, rester une vingtaine d'années.
C'est impossible. C'est impossible au Real Madrid. Voilà. Et lui-même.
Pas sûr qu'il en ait envie pendant 20 ans.
Il en a pas envie. Mais c'est, de toute façon, au Real Madrid, c'est simplement pas possible. C'est pas la culture du club. Il y a une telle pression, il y a une façon de fonctionner qui fait que les entraîneurs se lassent rapidement. En général, c'est 3-4 ans. Zidane restera la saison prochaine, et si ça va bien, une saison de plus, et après il partira. Mais ça peut pas être plus. Ça ferait 4 ans et demi, et ce serait déjà beaucoup au Real Madrid de rester aussi longtemps.
Bon, après, il pourrait être genre directeur sportif, un truc comme ça.
Non. Alors lui, il veut entraîner.
Ah, il veut continuer. Non,
et puis il veut entraîner au quotidien. Ce qui l'intéresse...
Et même s'il continue à gagner.
Mais même s'il continue à gagner, il y a une lassitude qui s'installe.
Et 20 ans de gagner.
Moi, je veux bien, mais bon, ouais, déjà, ce serait dingue. Le mec, il va pas gagner tout le temps. Je veux bien que ce soit Dieu sur Terre.
On lui souhaite, quand même. Mais ça va être
on veut bien, nous, hein, mais bon.
Voilà, Sébastien, t'as ta réponse. À bientôt dans l'after.
Ok, nickel, merci.
Salut Sébastien.
Alors moi, c'était clair. Et il y en a, je voulais parler d'un joueur, quand même, qui a fait ses adieux aujourd'hui, en tout cas, qui a annoncé aujourd'hui, de manière un peu étrange, qu'il quittait l'Atlético.
Ah oui.
C'est la star de l'Atlético, c'est Fernando Torres, El Niño. Alors, ce qu'il y a de très dommage, c'est qu'il a annoncé ça un peu entre deux portes lors d'un événement.
Il jouait encore
un coup de temps en temps, mais ouais. Il jouait pas, tout simplement parce qu'il y a un entraîneur qui est jaloux de lui, qui s'appelle Diego Simeone.
Comment ça, il est jaloux de lui?
Ah oui, non, mais Simeone, il est indécent avec Fernando Torres. Fernando Torres, le jour où il va l'ouvrir, ça risque de faire trembler les murs du Honda Metropolitano.
Mais comment ça?
Je l'affirme,
raconte.
Diego Simeone ne supporte pas que le joueur le plus populaire, que l'homme le plus important d'Atlético, ce n'est pas lui, contrairement à ce qu'on croit, c'est Fernando Torres. Et que dans le cœur des supporters, c'est Torres. Et d'ailleurs, Torres a toujours dit, il n'y a que le président Cerezo qui m'a toujours transmis son respect et sa confiance.
D'accord.
Contrairement à Simeone qui a eu des déclarations, mais un peu en dessous, quoi. Voilà, jamais franc en plus, quoi, tu vois, contre Fernando Torres, et combien de fois il l'a fait s'échauffer, s'en faire rentrer, etc. Il a vraiment eu un comportement lamentable. Et aujourd'hui, Fernando Torres, ce qui est dommage, c'est qu'il a fait ça dans un acte publicitaire comme ça, alors que ça méritait une belle conférence de presse, de gala au Wanda Metropolitano. Voilà, c'est un mythe de l'Atlético qui était revenu, qui a rendu beaucoup service, notamment même encore cette saison, qui va partir et qui devrait aller en Chine pour faire un ou deux ans.
Tiens, messieurs,
Fred,
vous avez vu...
Je pourrais poser une question à Fred très rapidement.
Ah,
Fred,
oui.
Est-ce que c'est vrai ces histoires qu'on raconte sur le salaire de Simeone? Parce que
15 millions.
Net?
Net, après impôt.
Mais c'est délirant. C'est 30 millions bruts.
Ouais. Non, c'est, oui, c'est ça. 30 millions bruts.
Et c'est vrai.
C'est vrai.
Ah oui. Complètement.
Ah, c'est oui, dingue. Les chiffres d'oseille impressionnent pour Hypocler, c'est quand même quelque chose.
Non, mais attends,
c'est un histoire qui impressionne.
Moi, je voulais vous faire réagir en parlant d'oseille, sur Fabio Capello qui prend sa retraite, qui annonce la fin de carrière.
C'est un peu ça. Il avait l'âge d'annoncer sa retraite, non, quand même.
Il a combien
d'âge, Capello? Au moins 70.
71.
71, ouais.
Ah, quand même.
Ah oui, à un moment donné.
Il va se consacrer à sa collection d'art contemporain, qui est, paraît-il, impressionnante.
Il va être consultant en Italie.
Il va revenir à faire le consultant pour Sky. Donc oui, il a dit que ça c'est, qu'on peut dire, c'est son métier d'avenir.
D'accord. Oui.
71 ans,
c'est beau d'avoir.
Est-ce qu'il a le même assistant capillaire qu'Antonio Conte?
Ah oui, c'est vrai que lui aussi est bien fourni.
Je sais pas.
Il est très bien conservé pour un septuagénaire.
Ouais, c'est vrai. Mais j'ai l'impression qu'il a toujours, depuis des années, lui, il est bien conservé. Hein.
Ouais.
C'est pas très récent. C'est pas la Chine, d'accord, qui a fait des miracles.
L'affaire continue jusqu'à minuit. Daniel Riolo, Pierre Ducrot, Simone Rovira, Fred Hermel, Philippe Auclair et l'Allemagne avec David Lorto, Jingle Lorto.
Ah, jung, ich bin der liebe Gott.
Hein?
Vous n'êtes chayeur d'hier,
mais... C'était de l'allemand?
Ouais.
Tu sais l'allemand?
Bah, tu vois.
David, avant ton avis tranché consacré au Bayern, que s'est-il passé pour Leipzig ce soir avec en plus des blessés à noter, non? Tu vas nous dire si c'est important ou pas.
Alors, match à gros enjeu ce soir, hein, le dernier match de la journée, match du lundi soir, désormais il y en a quelques-uns en Allemagne. Leipzig recevait Leverkusen pour prendre quelques points d'avance pour une qualification en Ligue des Champions en fin de saison. Lourde défaite du RB Leipzig, 1-4 sur sa pelouse ce soir, avec un match un peu curieux, une première mi-temps maîtrisée par le RB avec une ouverture du score, et je me suis dit, ouh, ça va être compliqué pour l'OM, d'autant que l'entraîneur avait largement fait tourner, il y avait 5 titulaires, 4 ou 5 titulaires qui étaient mis sur le banc aujourd'hui, ce soir, et puis l'égalisation, le tournant du match, est intervenu à la 45e juste avant la mi-temps, et dès lors, le ressort s'est cassé à Leipzig. Leverkusen est revenu après la mi-temps, après la pause, avec des intentions offensives spectaculaires, avec des joueurs qui, lorsqu'ils sont tous réveillés ensemble, eh ben font un espèce de concert offensif très très bruyant, avec Kevin Folland, avec Julian Brandt, avec le jeune Leon Bailey aussi, dont on a déjà parlé et sur lequel il faudra peut-être s'arrêter plus longuement un soir. Ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup accéléré du côté de Leverkusen en deuxième période. Il y a deux façons de voir les choses. On peut se dire que RB Leipzig a peut-être levé un peu le pied en prévision du match de jeudi. Mais on peut se dire aussi qu'il y a eu des courants d'air et qu'il a encaissé beaucoup de buts, comme ça arrive quand même régulièrement cette saison. Ça sera très compliqué de pronostiquer le match de jeudi, messieurs, parce que Leipzig peut montrer un visage complètement différent à l'extérieur qu'il a montré ce soir à domicile. Oui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si l'OM mène ses offensives à fond et joue juste, il y aura de la place pour marquer des buts.
C'est clair. Et j'ai vu que Naby Keïta est sorti sur blessure.
Naby Keïta a subi un choc dans un duel avec le gardien Leno de Leverkusen, contusion à la hanche, mais le communiqué officiel du club qui est sorti il y a quelques minutes indique qu'il n'y a pas de danger pour sa participation jeudi au match contre l'OM.
Alors ton avis tranché du soir concerne donc le Bayern champion ce week-end, et tu veux nous parler du joueur clé pour ce titre, pour l'obtention de ce titre, c'est Martinez.
Oui, parce que vous imaginez bien que tous les médias allemands, à l'issue du titre acquis ce week-end par le Bayern, le sixième d'affilée, tous les médias allemands ont fait la une et ont focalisé sur Jupp Heynckes. Évidemment, c'est le grand monsieur qui est venu après le match saluer la tribune, les fans, les supporters du Bayern, qui a pris par le bras Robben, qui a pris par le bras Ribéry, etc. On a vu ces scènes-là. Et on a vu aussi le banc du FC Bayern au coup d'envoi ce week-end. On avait, pour les joueurs de champ sur le banc, vous allez voir où je veux en venir, Robert Lewandowski, Javi Martinez, Thiago Alcantara, Franck Ribéry et Thomas Müller. Ces 5 joueurs-là étaient sur le banc au coup d'envoi. Et figurez-vous que le jeu du Bayern, depuis l'arrivée de Heynckes en octobre, c'est énormément structuré. Ce qui saute aux yeux lorsque le Bayern joue avec Heynckes, c'est une organisation très très précise, une stabilité défensive et une organisation offensive extrêmement précise. Jusque dans le dernier tiers du terrain, les choses sont très organisées, les joueurs tiennent leur position et ensuite on fait confiance aux individualités. Figurez-vous que ce week-end, Javi Martinez, l'Espagnol, n'était pas sur le terrain. Et Augsbourg a complètement désorganisé le Bayern dans un premier temps, au début du match, a ouvert le score. Et on s'est dit, tiens, le Bayern n'arrive pas à trouver son organisation habituelle. En réfléchissant un peu et en regardant les organisations habituelles justement du Bayern, on s'aperçoit que finalement le joueur clé, celui qui donne l'équilibre à cette équipe, qui lui permet à la fois de relancer proprement, lorsqu'elle repart de son but, et aussi d'endiguer les offensives adverses, ce joueur clé, c'est Javi Martinez. C'est le seul et unique numéro 6 pur de l'effectif. Ancelotti, lorsqu'il était présent...
Il n'est pas titulaire avec la sélection d'Espagne, Javi Martinez.
Bah, il est même pas sûr d'aller au Mondial.
Putain, c'est incroyable.
Ouais, alors c'est vrai, en ce moment,
il y a une campagne en sa faveur quand même. Hein.
Ouais, parce que moi je veux insister ce soir sur le... Encore une fois, ce joueur est l'encre. Ah, avec un A, hein, évidemment, l'encre du Bayern. C'est-à-dire que, aussi bien lorsqu'il faut attaquer, c'est par lui qu'on passe pour lancer les offensives, pour lancer les mouvements. Et lorsqu'il s'agit de défendre, lorsque Vidal est trop haut, lorsque Thiago Alcantara est trop haut, lorsque James Rodriguez est trop haut, même lorsque Jupp Heynckes aligne au coup d'envoi, par exemple, un 4-3-3 avec trois milieux censément défensifs, c'est Javi Martinez qui est le point d'équilibre qui donne au Bayern le point d'équilibre parfait. Même si cette équipe est très bien organisée par ailleurs, on l'a vu ce week-end, ça a été éclatant. C'était vraiment ça sautait aux yeux. Il n'était pas sur le terrain et le Bayern a tangué avant évidemment de réagir, de faire parler ses individualités et de renverser l'affaire et de finalement gagner largement. Mais pour les dernières marches en Ligue des Champions, à mon sens, et c'est l'avis tranché de ce soir, ce joueur-là sera indispensable. J'ai dit précédemment, je crois que c'était lundi dernier, que le joueur bonus, le joueur plus, celui qui peut faire la différence devant, ça peut être un James Rodriguez. Ce que je dis ce soir, c'est un autre aspect du jeu du Bayern, c'est que le joueur qui équilibre l'ensemble de ce groupe-là, l'ensemble de l'équipe sur le terrain, c'est vraiment Javi Martinez. On dit en Allemagne Ankerspieler, c'est le joueur d'ancrage, c'est le seul finalement dans l'effectif qui permet au Bayern d'avoir cet équilibre.
Mais David, on a oublié que son vrai poste, c'est celui-là.
Mais oui. Oui, parce que
Bilbao, parce il que, était comme ça, ouais. Il était
au milieu. Carlo faisait beaucoup tourner en défense centrale, ouais. et utilisait aussi Javi Martinez régulièrement aux côtés de Boateng ou d'Hummels, en fonction des blessés aussi. Il a été contraint de le faire.
Il l'a utilisé aussi comme milieu, comme défenseur central.
C'est lui, oui, qui l'a fait reculer.
Ok. Bon bah écoute, on verra cet élément clé en Ligue des Champions cette semaine, puisqu'on vous retrouve tous, évidemment les drôles de dames, pour les quarts de finale retour demain, Roma, Barça et le retour donc de City, Liverpool. Merci les drôles de dames, merci Daniel, merci Pierre. Adios.